balade dans les châteaux de la Loire, donc, et on va commencer, Jean-Sébastien, à Montlouis-sur-Loire.
Grosso modo, on est à une dizaine de kilomètres en amont de Tours. Montlouis, c'est un gros bourg perché sur une falaise qui surplombe le fleuve. C'est aussi une appellation de vin blanc à base de chenin qui est magnifique. Et dans un tout autre registre, Montlouis, la semaine prochaine, c'est la capitale mondiale de la tomate.
Et oui, et on va aller au château de la Bourdaisière. Alors, il faut savoir qu'il y a là-bas un prince jardinier qui s'appelle Albert Desbrolles. Alors que depuis 1992, donc je pense que c'est à la 21e édition, oui, justement, cette année, il a fait du deuxième légume frit le plus consommé au monde après la pomme de terre, donc un sanctuaire. Il faut savoir qu'il y a une étendue de plus de 700 variétés des tomates 700. Cultivées sur place. Ouais. C'est énorme. Il les a amenées du monde entier. Donc les premières, ils arrivaient justement d'Asie. Et puis tout doucement, il a fait aussi des tomates hybrides qu'elles sont nées sur le domaine. Et vous allez voir, il y a des tomates de toutes les couleurs, de tous les goûts, de toutes les tailles. Et c'est vraiment une belle farandole des couleurs et des parfums.
Alors, il faut bien le préciser, c'est la pleine saison hein, sur les marchés en ce moment.
Hein. On est complètement dedans. Alors, un petit conseil, acheter des tomates en allant au marché, privilégier les circuits courts, donc les producteurs directs. Il y en a partout, il y en a même à Paris. J'en suis la preuve vivante, j'en achète régulièrement. Vous aussi Valérie, c'est génial.
Ça pousse chez moi.
Ça pousse chez vous, mais bien oui, sûr, dans la banlieue parisienne, ça pousse partout, même sur les terrasses à Paris, les petites tomates. Il faut les choisir bien fermes. Alors, ne vous faites pas au fait qu'elles doivent être calibrées, esthétiques. Ça, on les laisse pour les grandes surfaces. Quand on va chez un producteur, elles peuvent être fripées. L'important, c'est qu'elles dégagent une bonne odeur et qu'elles ne soient bien sûr pas abîmées.
On les mange vite, rapidement.
Oui,
parce que ce n'est pas facile à conserver, hein, une tomate.
Alors, il ne faut pas les mettre au réfrigérateur parce que la tomate n'aime pas le froid, elle va perdre vraiment de son odeur, de sa saveur. Il faut la laisser justement dans une pièce pas trop chaude non plus, assez tempérée, bien aérée. Et puis, il faut les mettre à plat. Vous savez, très souvent, on les met dans les corbeilles et risquent de s'abîmer. Mais en tout cas, il faut les garder une semaine, vous pouvez les garder. Après, vous pouvez les consommer aussi, en faire des coulis, en faire des conserves.
Bon, vous savez bien tous que je ne suis pas un champion olympique en termes de cuisine. Qu'est-ce que je fais des tomates au-delà de la tomate mozzarella quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire
d'autre ? Alors, il n'y a pas de tomate mozzarella en Italie. Ça s'appelle la caprese. Alors ça, je vais vous apprendre. Vous voyez, vous m'apprenez le français, je vous apprends l'italien. Allez. La caprese, ça s'appelle la tomate mozzarella, mais on ne l'appelle pas comme ça chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait à part ça ? Ben, on ferait on va remonter. Alors, la caprese, elle vient de Naples. Nous, on va remonter, on va à Florence et on fait une panzanella. Donc, c'est du pain rassis qu'on va faire tromper. Donc, ça naît dans les campagnes florentines pour ne pas jeter le pain. C'était les paysans qui étaient dans les terres. Ils faisaient tromper leur pain dans de l'eau avec un peu de vinaigre. Après, ce qu'ils trouvaient dans les terres, donc on va trouver des tomates, c'est la saison. On va trouver peut-être du basilic aussi. On va trouver des concombres. On va tout couper, on va tout mélanger, un peu de céleri. Et on va laisser par-dessus un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Il ne faut plus autre chose. Après, on peut la réadapter à la maison, à rajouter des olives aussi. On peut rajouter, il y en a certains qui rajoutent aussi des anchois ou alors ils rajoutent aussi un peu de thon. C'est délicieux. Mmh. Et un peu des oignons, les oignons rouges. Ça, c'est très bon. Ça relève un peu le goût.
Mais vous aurez la recette. Pizza.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est dommage. La tomate, elle est
bonne.
Tomate,
c'est plus simple.
Mais non.
On met tout ça sur la page Facebook, évidemment, avec Valérie. Hein, tous ces bons conseils et ces recettes de Louana. Jean-Sébastien, on reste dans les environs avec vous pour la suite de cette balade gourmande alors.
Ouais, on va mettre le cap au sud, 20 km par la D85 et on va arriver à Cormerie, village de 1700 habitants qui fut le siège d'un monastère bénédictin fondé en 791. Et en se baladant, on découvre d'abord les vestiges comme la tour Saint-Paul du 11e, le logis du prieur du 15e, une très jolie église du 12e à l'entrée du village. Mais Cormerie, c'est surtout célèbre pour être le berceau du macaron, une pourlécherie dont la tradition remonte au 8e siècle. Macaron fait de sucre glace, de sucre de poudre d'amande, de blanc d'œuf, qui a la forme, je vous dirais, d'un petit bagel, même si la tradition veut qu'on parle de nombril.
Ah oui. Une fois qu'on a acheté une boîte de macaron, Jean-Sébastien, où est-ce qu'on va ensuite ?
Eh ben, on fait encore 20 km au sud et on arrive à Loches, qui s'annonce la cité natale d'Alfred de Vigny, posée sur une colline qui domine la vallée de l'Indre. Loches qui a été rachetée par Saint-Louis en 1249. Et puis en 1429, c'est à Loches que Jeanne d'Arc vint convaincre le roi Charles VII d'aller se faire couronner à Reims. Les salles où cette rencontre historique a eu lieu se visitent, dans la partie du logis royal datant du XIVe. L'autre femme qui a marqué ce logis royal, c'est Agnès Sorel, favorite de Charles VII, qui mourut ici en accouchant. Dans l'enceinte de ce château, il y a également un donjon du XIe qui fut un des plus hauts de l'époque. C'est aussi le mieux conservé dans la mesure où il a servi de prison jusqu'en 1926. Du haut de ses 36 mètres, je peux vous assurer qu'on a une vue imprenable sur toute la ville. Mais surtout, ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'on a ouvert ce donjon à la visite en 1910. C'était donc encore une prison. Donc on visitait un donjon-prison avec des prisonniers à l'intérieur. Et le personnel pénitentiaire était à la fois gardien de prison et guide touristique.
Situation incroyable. Sinon, la ville, moi, je ne la connais pas. Elle est agréable?
Alors, autour du château, il y a une cité royale, au-delà des remparts, une ville médiévale qui offre quelques demeures pleines de cachets, comme dans la rue du château où s'alignent trois maisons du 16e aux influences très florentines, justement. L'hôtel de ville, il est du 16e et il a un charme fou. Et je vous propose de vous poser rue Balzac pour déjeuner. La Gerbe d'Or, c'est une très jolie table où le chef concocte une cuisine pleine de saveurs et d'originalité. Petite soupe glacée de carottes parfumée à la citronnelle avec des légumes croquants. Et puis on va continuer avec un travers de porc cuit à basse température, petite fricassée d'aubergine. La première formule au déjeuner, elle est à 14 euros. Et puis ensuite, il faut aller voir Beaulieu-les-Loches. C'est à 1 km. Le village est patrimoine inouï des maisons, des vestiges qui viennent des 11e, 12e, 13e. Et les restes d'une abbaye, l'abbaye de la Trinité, commencée en 1007. Si j'osais, je finirai en vous disant que Beaulieu, c'est un beau lieu.
Bah vous l'avez fait.
Oui, voilà.
Trop tard, on ne peut pas le couper. C'est dommage, puisque tout est en direct. On a une question pour les guides du Routard. Il y en a trois à décrocher ce matin au 32-10.
Quel écrivain et journaliste disparu il y a deux ans est à l'origine de la forêt des livres qui a eu lieu la semaine dernière à Chanceaux-près-Loches?
Vous avez la réponse, le standard est accessible. C'est Clara qui vous attend, bien sûr. 3-2-1-0, 3 guides du Routard. Rien que pour vous, petite question à Luana. Vous validez ou pas les tomates jaunes? C'est bon, c'est bien ou pas les tomates jaunes?
Bien sûr qu'elles sont beaucoup, bonnes. Oui, elles sont bonnes. Même les vertes sont bonnes. Maintenant, il faut savoir. Alors, elle est un tout petit peu moins sucrée que la rouge. Ça, il faut le savoir. Dans les couleurs, en tout cas, de tous les légumes, plus on va vers le vert, moins c'est sucré. C'est
beignet de tomates vertes.
Ah oui, la confiture aussi. Ah, c'est génial.
Le film aussi,
je sais de quoi vous parlez.
Le film, c'est un bon Pascal me dit stop avec ses grands bras. Enfin, oui, des grands bras, faut pas exagérer. On s'arrête là, on met tout ça sur la page Facebook. Demain, on ira au Portugal et on cuisinera
la morue.
La morue en plus.
Bah oui,
j'ai envie de dire vivement demain.